Now. Couture dans le mid.
En vacances.
Fait que les hommes, les hommes.
Radio X.
Chronique politique avec Rodolphe Osny.
Mardi le 21 juillet, c'est Couture dans le mid avec vous jusqu'à midi. Moi, c'est Louis Gauvin, c'est moi qui vous accompagne en compagnie de Jordan Boivin.
Bonjour.
Mon acolyte de la semaine. On se lâche pas. Le mardi, vous le connaissez, vous l'aimez dans Couture dans le mid, un habitué, c'est Rodolphe Osny. Salut Rodolphe, comment ça va?
Bonjour Louis, bonjour Jordan, bonjour Québec. Écoute, je vais bien, il fait beau, donc on se plaint pas.
Toi, l'été, prends-tu un petit break de temps en temps à la construction? Tu sors-tu un peu ou ça n'arrête jamais?
Ben, écoute, avec l'actualité, pas tellement, mais je t'avoue que la semaine prochaine, oui, je vais prendre des vacances, donc je serai absent mardi prochain, mais sinon, non, je garde un œil parce que même en été, surtout en été avant une campagne électorale au mois d'octobre, ben, ça bouge dans tous les partis politiques.
Ah, ça bouge ici au Québec, puis ça bouge aussi ailleurs, juste de l'autre bord de la frontière, aux États-Unis, hier. Trump encore annonce des tarifs de 50 % dans 30 jours, même des tarifs qui rentrent contre l'ACEUM. T'en penses quoi de cette annonce-là?
Ben écoute, j'ai quand même l'impression qu'on a déjà joué dans ce film-là. Donc, il y a plusieurs choses que tu viens de dire. Un, c'est dans 30 jours. Qu'est-ce qui va se passer durant ces 30 jours? Est-ce qu'ils vont véritablement être mis en application? C'est la première question. Deuxièmement, il y a encore ce taux maintenant de 50 % Et est-ce que ça va se maintenir à 50 %? Est-ce que ça va descendre à 30, à 20? Je ne sais pas. Comme on le sait, dans le passé, il y a eu plusieurs fois des menaces du président américain. Ils n'ont pas été mises en application. Il y a des fois aussi l'industrie, même aux États-Unis, qui ont réagi en disant « Attendez, là, ça, on en a besoin, par exemple, pour notre industrie, ou ça, on n'arrive pas à trouver des alternatives. » Donc, c'est pour ça que je me dis, on sait que c'est à la fois une tactique de négociation pour mettre de la pression sur le Canada. Et aussi, on a un peu joué dans le film à savoir, est-ce que dans 30 jours, ça va véritablement être mis en application ou est-ce qu'il essaie un peu de nous mettre dans notre jus? Surtout que, écoute, le calendrier de l'annonce est perplexe, je suis un peu perplexe pour plusieurs éléments. Le premier, Louis, c'est que dimanche, le premier ministre Carney était au New Jersey, était à New York pour la finale de la FIFA. Et derrière lui, il y avait le secrétaire au commerce. Donc, la première question que je me pose, c'est, quand est-ce que le Canada a su qu'il allait faire face à ces tarifs ou que le président américain allait signer ce fameux décret concernant des nouveaux tarifs? De deux, ensuite, je me dis la question, Dominique Leblanc, là, notre ministre qui est allé plusieurs fois à Washington, depuis quand aussi, lui, est au courant de ces tarifs? Et c'est le début ce matin de la conférence du Conseil de la Fédération, qui est la conférence des premiers ministres des provinces. Écoute, ça va brasser, en tout cas, en termes de, est-ce que le front uni des provinces, est-ce qu'il y a certaines provinces qui vont vouloir, et on a déjà entendu un Doug Ford hier dire, il faut qu'on riposte. Je viens d'entendre ce matin le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moore, qui dit que non, il ne faut pas jouer comme ça et faire des contre-tarifs. Donc, tu vois que, est-ce que c'est une tentative des Américains aussi de briser ce fameux front uni ou Team Canada, comme on l'appelait, à suivre dans les prochaines heures et les prochains jours.
Quelle doit être, Rodolphe, la stratégie pour Mark Carney? Parce que l'année dernière, quand il y avait eu ces tarifs-là qui n'arrêtaient pas d'un bord puis de l'autre, on trouvait qu'il était un petit peu absent là-dedans, ou du moins, on sentait pas qu'il était là pour les Canadiens. C'est quoi qui doit être différent pour ces nouveaux tarifs-là? Quelle doit être la stratégie de Carney?
Ben, écoute, si tu regardes, il y a quand même eu plusieurs Mark Carney en termes de ces négociations. On se souvient de Mark Carney durant la campagne électorale, il y a un peu plus d'un an, qui disait la relation avec les États-Unis sera plus jamais la même chose. Il y a quelque chose de brisé avec les États-Unis. Ensuite, il a dit, on a le meilleur deal des autres pays parce que l'ACEUM continue à rester en application. C'est juste des tarifs sectoriels sur l'aluminium, sur l'acier et d'autres éléments. Mais là, maintenant, on voit que la dynamique a aussi changé parce que, comme on vient de le dire, ces tarifs sont applicables de 50 % sur les 500 produits, je pense, qu'ils ont mis la liste, ben ça, c'est en contravention de l'accord. Donc, c'est comme si cet accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique n'était plus applicable, en tout cas, de façon conforme et de façon sur tous les produits. Puis aussi, on a eu un Mark Carney en termes de... Tu as eu un côté le discours de Davos en disant, bon, ben toutes les puissances et tout, on doit s'allier contre les États-Unis. Ensuite, il y a eu le move sur la Chine en disant on doit se rapprocher de la Chine puis d'accepter des voitures électriques chinoises. Ça a fait aussi sourciller. Ensuite, on a eu un autre, Mark Carney, qui est allé à New York et qui a dit aux Américains, le Canada veut investir aux États-Unis. Donc, tu te dis, attends, c'est paradoxal. Et c'est ça, et c'est sans le fait qu'à plusieurs reprises, le Canada, sous M. Carney, a fait des reculs ou des concessions concernant, par exemple, la taxe au numérique en disant, ben, c'est comme ça que les Américains vont revenir à la table des négociations. La réalité aujourd'hui, Louis et Jordan, c'est que le Canada est plus frappé que le Mexique et qu'on dirait que les États-Unis ont une meilleure relation entre les États-Unis et le Mexique qu'entre les États-Unis et le Canada. Donc, je me pose la question, qu'est-ce que M. Carney, quelle va être sa stratégie? Peut-être qu'ils vont jouer l'horloge, il ne faut pas l'oublier, il va avoir une élection de mi-mandat aux États-Unis, peut-être que le Congrès va changer, peut-être que le Sénat va changer. Est-ce que la stratégie, c'est de jouer l'horloge? Mais honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup aussi de premiers ministres, comme beaucoup de Québécois et de Canadiens, qui se demandent exactement maintenant c'est quoi la stratégie du premier ministre Carney.
Est-ce que le fait que l'ACEUM n'a pas été renouvelé là, dernièrement par Trump, ça fait qu'il peut mettre ces tarifs-là? Parce que, de ce que je comprenais, même si c'était pas renouvelé, c'était juste pour signer, on la gardait quand même jusqu'à temps qu'il y ait une nouvelle entente.
Oui, t'as une bonne interprétation et surtout... Ça crée de l'incertitude, bien évidemment. Le but de M. Trump, c'est de faire fuir des investissements au Canada pour qu'ils se fassent aux États-Unis. Il l'a déjà dit dans le passé. Mais pour répondre spécifiquement à ta question, ça fait que normalement, chaque année, cet accord doit être, d'une certaine forme, renégocié. Et pour l'instant, on n'a même pas de calendrier concernant ces fameuses négociations. On ne sait même pas s'il y a eu des négociations, parce que si on se fie à Dominique Leblanc, ses déclarations des dernières semaines, il disait que tout va bien. Et là, il y a eu cette annonce hier du président Trump en disant « Ben non, tout ne va pas bien. Voici, vous avez 30, dans 30 jours, on vous charge 50 % de tarif. »
Toujours dans cette lignée des négociations là, entre les Canadiens et les Américains, hier, une conférence, l'ambassadeur américain au Canada, Pete Hoekstra, parlait à Edmonton, puis ça parle des deux bords de la bouche. D'un côté, Trump dit que « Oh non, pas besoin de votre gaz », puis lui, il est allé dire complètement le contraire hier.
Oui, c'est ça qui était intéressant, c'est que hier, l'ambassadeur des États-Unis au Canada a dit que les États-Unis ont besoin de pétrole canadien et ça pour au moins 10 ans et qu'ils voulaient que le Canada augmente la production et les exportations de pétrole envers les États-Unis. Il a même donné un chiffre, 3 à 4 millions de barils de pétrole. Donc d'un côté, tu te dis, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que l'ambassadeur américain essaie de faire de la pression en disant à l'Alberta, à la Saskatchewan, par exemple, au Manitoba, ben, envoyez-nous plus de pétrole et ça va bien aller? Ou est-ce que l'ambassadeur est en train de contredire le président Trump? Parce qu'à chaque fois qu'on entend le président Trump, il dit ben, « on n'a rien besoin du Canada, on n'a pas besoin de son pétrole, on n'a pas besoin de son gaz, etc. etc. » On n'est pas la première contradiction, mais on se pose encore la question, est-ce que c'est parce qu'ils veulent essayer un peu de séparer en disant, par exemple, aux provinces de l'Ouest, ben, « nous, on va continuer à faire des affaires avec vous. » Et il y a aussi la fameuse question de l'alcool. Est-ce que certaines provinces vont changer de position ou pas concernant l'alcool américain? Hier, l'ambassadeur américain a même pris un shot de whisky sur scène pour sceller l'amitié Canada-États-Unis pour dire « Regardez, on boit du bourbon ou du whisky américain ou canadien. »
Puis là, Trump annonce qu'il va avoir du tarif sur les whiskies canadiens aux États-Unis. Il n'y a vraiment rien à comprendre là-dedans. C'est d'un côté comme de l'autre, du gros n'importe quoi. Début du Conseil de la Fédération à l'Île-du-Prince-Édouard. Ça va aussi jaser des relations Canada-États-Unis, du commerce intérieur, du pétrole, logement, tout le kit, là.
Oui, c'est pour ça. Donc là, c'est comme un agenda, un élément qui s'est ajouté à l'agenda, bien évidemment, Canada-États-Unis. Mais il y avait déjà un full agenda parce que on va parler bien évidemment du pétrole et de ce nouveau pipeline. On va parler de l'électricité. On sait que le Québec et Terre-Neuve sont en négociation. Est-ce que ces négociations vont aboutir avant une élection? Est-ce que le fédéral va mettre aussi son grain de sel concernant les négociations Québec et Terre-Neuve? Il faut savoir que M. Carney avait annoncé qu'il voulait doubler la production d'électricité au Canada. Donc, on va voir exactement. Et un dossier qu'on parle toujours, Louis, puis qu'on est tout le monde se pète les bretelles en disant « on fait des progrès ». Honnêtement, moi, j'ai pas vu beaucoup de progrès. Ce fameux commerce intérieur, faire tomber les barrières entre les provinces au Canada, À chaque fois, on en parle. Le fédéral a dit « Ah, regardez, on a réussi. » Ben, on va voir. En tout cas, ils vont rendre compte de tout ça. Et alors, c'est encore un sujet concernant à la fois l'électricité, le pétrole et bien sûr le commerce intérieur.
Mais concrètement, est-ce qu'on peut s'attendre à voir du changement sortir de là, des nouvelles idées, des nouvelles ententes, ou ça va juste être du blabla puis du blabla, puis comme d'habitude, c'est plein de bonnes idées, mais pas de grandes actions?
Ben, moi, je vais être intéressé de voir, parce que là, actuellement, tu as d'un côté Doug Ford qui est déjà sorti en disant on devrait riposter, un même Doug Ford qui, à l'époque, souvenons-nous, au début, il avait dit même qu'il faudrait couper l'électricité aux États-Unis. On s'en souvient de cet élément-là. Et là, comme je viens de vous dire, je viens d'entendre le premier ministre de la Saskatchewan qui dit non, ce ne serait pas productif de faire comme ça des contre-tarifs. Donc, j'ai hâte de voir les autres provinces exactement comment ils vont réagir. Et M. Carney qui se présente jeudi au Conseil de la Fédération, est-ce qu'il y aura un consensus? Quelles vont être les déclarations de part et d'autre? Ça va être intéressant de suivre exactement ce front uni de Team Canada, comme ils appelaient.
C'est sûr qu'on va garder un petit œil là-dessus aujourd'hui. Plus ici maintenant, au Québec, qu'est-ce qui se passe? La CAQ puis le PCQ qui attaquent Christine Fréchette. Elle se fait attaquer par sa propre gang.
Par le PLQ, pardon.
Le PLQ,
Oui, c'est intéressant parce que d'un côté, tu as le Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui dit que Madame la CAQ et Mme Fréchette sont en train d'essayer d'acheter des votes avec votre propre argent, avec beaucoup des annonces qui ont été faites ces dernières semaines de la CAQ. Donc, c'est intéressant de voir cette attaque d'un côté du Parti conservateur du Québec et de l'autre côté, Charles Milliard, qui ne veut pas être en reste, qui lui aussi attaque Mme Fréchette en disant, écoutez, ils ont peut-être changé de nom, ils s'appellent peut-être maintenant Équipe Fréchette, avant c'était Équipe Legault, mais c'est la même équipe, c'est les mêmes ministres. Ils ont juste comme ça changé en haut à la tête, mais ça reste la même CAQ. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux partis, un, veulent aller chercher des votes à la CAQ, et surtout, ça veut dire que la CAQ n'est pas encore rayée de la carte en termes des élections, si tu vois comme ça deux partis continuer ou en tout cas essayer de freiner la montée ou la remontée de la CAQ. C'est tellement intéressant, Louis, parce qu'il y a un an, les projections donnaient presque zéro siège à la CAQ. Maintenant, la CAQ est peut-être entre 5 et 10 sièges. On va voir les prochains sondages. Mais en tout cas, surtout qu'il va y avoir des luttes à 2, des luttes à 3, même des fois des luttes à 4 dans certaines circonscriptions. On voit que les lignes d'attaque commencent un tout petit peu à s'affiner à la fois pour le Parti conservateur du Québec et pour le Parti libéral du Québec.
Penses-tu, Rodolphe, que le changement de nom de la CAQ, c'est-à-dire Équipe Christine Fréchette, Coalition Avenir Québec, peut avoir un impact? Une femme première ministre, on sait que c'est très 2026. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Bien, c'est très intéressant parce que si tu regardes les sondages, c'est vrai que le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon a un défi envers l'électorat féminin. Donc ça, c'est déjà un défi pour le Parti conservateur pour le Parti québécois. Donc, Mme Fréchette ou la CAQ et Mme peuvent réussir, en tout cas, à aller chercher des votes vers l'électorat féminin. Et deuxièmement, tu vois que c'est vrai que les gens, pour l'instant, sont un peu en train de donner le bénéfice du doute à Mme Fréchette. Ils ont aimé, si tu regardes les sondages, ses premiers mois comme première ministre. Donc, on voit que les partis essayent un tout petit peu de freiner cette avance ou en tout cas d'attaquer un tout petit peu Mme Fréchette pour dire, écoutez, vous changez 4 sous pour une pièce.
Ah, j'ai bien hâte de voir si l'effet Fréchette va vraiment être aussi gros qu'on le pense. Là, parce que si les partis justement commencent à s'attaquer, c'est parce qu'eux, de leur côté, doivent voir qu'il s'y se passe quelque chose. Est-ce que le public québécois est assez dupe pour se faire avoir une autre fois?
La réalité, c'est que, on le sait très bien, le Parti libéral du Québec a quand même sa base à Montréal, a toujours une quinzaine de vingtaine de sièges qui sont tout à fait, qui sont un peu leur château fort. D'un autre côté, tu as Éric Duhaime qui chauffe un peu tout le monde dans votre région de Québec. Donc ça va être intéressant aussi de voir. Puis ensuite, tu as le vote à l'extérieur, le fameux vote des régions. Est-ce qu'il va rester à la CAQ? Est-ce qu'il va passer au Parti québécois? Actuellement, les sondages indiquent qu'il est plus en train de passer au Parti québécois, mais ça va être une campagne très intéressante parce qu'encore une fois, il y a 50% à peu près des gens qui, des fois, n'ont pas fait leur avis ou seraient prêts ou ce serait facile pour eux de changer leur vote à ce point-ci.
Puis pour la question de l'urne dans la grande région de Québec, ça risque d'être encore une fois le fameux troisième lien. Ça n'arrêtera pas d'arrêter cette histoire-là. Puis on se souvient du débat entre le ministre Bernard Drainville maintenant qui voulait être chef de la CAQ et Christine Fréchette. Là, Drainville qui optait pour quelque chose de central, plus dans le secteur chemin des îles. Là, Mme Fréchette qui, elle, va d'un corridor près de l'île d'Orléans. J'ai hâte d'entendre également les propos de Bernard Drainville là-dessus. Est-ce qu'on s'est entendu sur quelque chose? Est-ce que Drainville est 100% d'accord avec ça? Puis de l'autre côté, c'est Éric Duhaime qui nous a dévoilé son plan dans la dernière campagne.
Oui, non, c'est sûr. Et tu mets tellement un point important. Il y a une contradiction à l'intérieur de la CAQ, surtout avec les propos de Bernard Drainville. Le fait que Bernard Drainville va être candidat, on connaît aussi la sincérité et l'émotion de Bernard Drainville en campagne électorale. Donc, c'est pour ça que Éric Duhaime fait bien, ou en tout cas, du point de vue stratégique, d'appuyer sur ce bouton-là pour faire réagir M. Drainville. M. Drainville, qui pour l'instant n'est pas au Québec parce qu'il est en Angleterre, c'est actuellement le salon de l'aéronautique. Donc, il est parti pour avec une délégation d'entreprise à Farnborough. Alors, on verra quand il reviendra s'il va réagir ou pas aux propos d'Éric Duhaime.
Et pendant ce temps-là, ben justement, Éric Duhaime est un peu en mode mitraillette de nouveaux candidats. A annoncé Karine Laflamme dans Lévis. Et là, aujourd'hui, c'est au tour de Michel Cadry, un homme d'affaires, là, d'être présenté comme candidat conservateur dans Papineau, notamment le dossier de l'autoroute 50 à cœur, lui.
C'est ça qui est très intéressant. C'est le comté, bien évidemment, de Mathieu Lacombe en Outaouais de Papineau. Mais c'est de remettre ce dossier de l'autoroute 50 qu'il a appelé et dans son communiqué, l'autoroute de la mort. Donc, Éric Duhaime, qui veut qu'on parle non seulement du troisième lien, mais aussi de l'autoroute 50, de sécuriser cette autoroute 50 et de s'assurer aussi qu'il y a des doubles voies partout. Donc, ça aussi, ça va être un sujet, j'imagine, qu'on va en discuter durant la campagne électorale.
Je vois ça aller beaucoup, là. En terminant, j'ai l'impression que Éric Duhaime a une couverture qui est de plus en plus équitable là, dans les médias de masse. On est moins en mode démonisation. On parle des candidats qui présentent, puis on parle pas d'eux comme des coucous, on parle d'eux comme des gens de qualité. Je sais pas qu'est-ce qui a changé dans sa méthode d'aller. Je sais pas si c'est juste moi qui remarque ça, mais j'ai l'impression qu'il est rendu plus acceptable dans les médias, Éric Duhaime.
Ben, je pense surtout qu'Éric Duhaime a cette qualité, puis on le connaît, de réussir à cibler des enjeux puis de réussir à les mettre de l'avant et que ça devienne, ou de forcer ensuite les autres partis politiques à réagir, que ce soit sur le privé, que ce soit sur les fonctionnaires, que ce soit sur la taxe sur le carbone, que ce soit sur le prix de l'essence, sur des éléments comme ça, le panier d'épicerie. Plusieurs fois, on a vu Éric Duhaime forcer les autres partis, puis même les autres partis un tout petit peu se positionner plus en fonction du Parti conservateur. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant. Éric Duhaime a cette capacité, des fois, de pouvoir dicter ce qu'on appelle la journée médiatique.
Il brasse la soupe et on aime ça. On a besoin de monde de même. Rodolphe Osny, un gros merci d'avoir été là aujourd'hui. Puis la semaine prochaine, je te souhaite des très bonnes vacances. J'imagine que tu vas être de retour avec nous autres l'autre
juste
d'après.
Après.
Excellent.
Juste après. Merci, Louis. Merci, Jordan.
Salut, passe une belle journée.
Bye.
Rodolphe Osny, mesdames et messieurs, ancien conseiller politique de Stephen Harper, si je me trompe pas.
Ouais, exactement.
Et spécialiste de la politique québécoise. Jordan, après la pause, on rouvre les lignes.
Let's go. Ben oui, on va jaser des droits de télédiffusion des Canadiens de Montréal parce que le deal est sorti dans les dernières heures. On en parlait la semaine dernière avec Max Truman. Ben là, on a nos réponses, c'est-à-dire il y aura des matchs à RDS 45, il y aura 32 pour TVE Sports. Il y a un nouveau qui s'ajoute dans Parade.
Ah ben, comme c'était pas déjà assez compliqué.
Et j'ai nommé Amazon Prime qui déjà présentait des matchs les lundis l'année passée dans la Ligue nationale de hockey. Et là, vont en présenter 7 du Canadien de Montréal en français. Donc, on aura peut-être des nouveaux descripteurs. On veut vous entendre là-dessus. C'est 709098. Est-ce que ça vous frustre, vous autres, d'avoir un abonnement de plus à payer? Comment vous dealez avec ça pour écouter le Canadien? Parce qu'on sait que...
Il
y a beaucoup de gens qui sont abonnés à ça. On veut vous entendre. Vous fonctionnez comment à la maison pour écouter le Canadien? Puis surtout avec les changements qui vont arriver dès cet automne.
418-670-9098. Réservez un circuit. On est avec vous. Retour de la pause.
Couture.
Restez là. On revient dans un instant.
Dans le mid. Radio X.